Comment est-ce que l'on définit la migration écologique? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça recouvre en réalité des situations qui sont très différentes les unes des autres. On désigne par ce terme l'ensemble des personnes qui sont amenées à quitter leur domicile, à quitter leur lieu de vie habituel, en raison de dégradations à leur environnement. Ça peut être des catastrophes naturelles, des ouragans, des inondations, mais aussi des dégradations plus lentes de l'environnement, comme la désertification ou la hausse du niveau des mers. Et beaucoup de ces dégradations sont évidemment liées au changement climatique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'a pas là une catégorie de migration qui est à part des migrations dites économiques ou politiques. En réalité, aujourd'hui, les facteurs de migration s'influencent les uns les autres mutuellement, et donc c'est difficile de séparer nettement les facteurs écologiques des facteurs économiques ou politiques de la migration.
On va y revenir sur ces distinctions qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Mais avant cela, ce n'était pas un phénomène nouveau d'un point de vue historique.
Ah, bien sûr que non. L'environnement a toujours été un facteur majeur qui a déterminé la distribution de la population à la surface de la planète. C'est à la fois un facteur qui a attiré les gens dans certaines régions, c'est pour ça que les deltas sont particulièrement peuplés, par exemple, parce que le sol est très fertile, et c'était aussi, bien sûr, un facteur qui a poussé les gens à partir à travers l'histoire. On a toute une série de témoignages qui montrent que des grandes catastrophes ont notamment provoqué des flux migratoires majeurs. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on regarde une perspective de temps long historique, comme nous sommes aujourd'hui à l'aube d'un changement environnemental majeur sur la planète, eh bien vraisemblablement, cela va aussi générer une redistribution de la population sur le plan géographique.
Quels sont les pays ou les régions du monde qui sont particulièrement concernées dès aujourd'hui, en ce moment?
Alors globalement, on distingue généralement trois grandes régions du monde qui sont particulièrement concernées. C'est d'abord l'Afrique subsaharienne, qui sera touchée par la dégradation des sols, le changement des précipitations et la désertification. Ensuite, l'Asie du Sud et du Sud-Est, qui est la région la plus peuplée du monde et qui sera, elle, touchée essentiellement par des inondations, des catastrophes naturelles et la hausse du niveau des mers. Et puis, il y a bien entendu la situation des petites îles, des petits territoires et états insulaires dans le Pacifique Sud, dans l'océan Indien et puis aussi dans les Caraïbes, comme on l'a vu l'été dernier lors de la saison des ouragans.
Alors, je regardais une étude sur laquelle vous aviez travaillé il y a 2 ans, je crois. Vous faites une distinction dans cette étude entre les régions concernées par le changement climatique et celles qui sont plus ou moins vulnérables à ce changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il est certain que la vulnérabilité au changement climatique ne tient pas uniquement compte de critères d'exposition, mais aussi de critères de gouvernance, de critères économiques, etc. Et donc, l'erreur qu'on commet parfois, c'est de regarder la carte des impacts du changement climatique et d'imaginer que c'est là où les impacts seront les plus forts, qu'il y aura forcément les flux migratoires les plus importants. Alors qu'en réalité, ces flux migratoires dépendent aussi de facteurs économiques et politiques, et donc on ne peut pas tout réduire aux facteurs environnementaux. Ça serait faire de l'essentialisme, ce qui est bien sûr inapproprié.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes que ça peut concerner? Il y a des chiffres qui circulent. On parlait il y a quelques années de 200 millions d'ici 2050 de réfugiés climatiques.
Alors le problème, c'est qu'on se situe toujours dans une sorte de perspective future avec des tendances à 2050 ou à la fin du siècle, alors que la réalité, c'est que c'est déjà une réalité aujourd'hui très présente. On a déjà des chiffres sur le nombre de personnes déplacées à l'heure actuelle. On sait par exemple que l'année dernière, en 2016, environ 25 millions de personnes ont été déplacées par les impacts du changement climatique. Ça veut dire à peu près une personne à chaque seconde où nous parlons. Ça veut dire aussi 3 fois plus de personnes déplacées que de personnes déplacées par des guerres ou par des violences, par exemple. Et donc, on sait ce qu'il en est aujourd'hui. Il est difficile de projeter ce qu'il en sera demain parce que, comme je le disais, ça va dépendre non seulement de variables climatiques, mais aussi de variables économiques ou politiques. Quelles seront les politiques qu'on appliquera demain? Comment est-ce qu'on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre? Il y a encore de grandes incertitudes politiques et économiques qui nous empêchent de donner un chiffre pour 2050 ou pour 2100.
Alors le gouvernement français m'a justifié le durcissement de la politique migratoire en France en expliquant qu'il faut distinguer les demandeurs d'asile des migrants économiques dans ce contexte de migration écologique. Qu'en pensez-vous?
Cette distinction qui consiste à distinguer d'un côté les bons réfugiés politiques dont la présence en Europe serait légitime, des mauvais migrants économiques, entre guillemets, dont la présence serait illégitime, en réalité pose toute une série de problèmes éthiques, mais aussi n'a pas beaucoup de fondement empirique. Parce que sur le terrain, ce que l'on voit, c'est que les motifs politiques, économiques et écologiques des migrations se fondent les uns dans les autres, s'influencent les uns dans les autres. On est aujourd'hui face à des parcours migratoires qui sont étalés dans le temps, qui sont fragmentés, avec différentes étapes influencées par différents facteurs environnementaux, politiques et économiques. Et donc cette distinction qu'on utilise en Europe, notamment pour justifier des politiques migratoires de plus en plus répressives, en réalité a peu d'écho empirique sur le terrain. Et quelque part, les migrations dites écologiques nous invitent à revoir et à dépasser cette dichotomie que l'on sait dépasser entre migrants économiques et réfugiés dits politiques.
Vous avez un exemple pour nos auditeurs de ce que ça peut représenter concrètement ?
Si je prends par exemple un parcours migratoire étalé sur plusieurs années en Afrique de l'Ouest, on va avoir des gens qui vont quitter la campagne parce que l'agriculture ne leur permet plus suffisamment de toucher suffisamment de revenus pour vivre. Et donc, ils vont envoyer le fils aîné de la famille, mettons, en ville pour trouver du travail. On a donc une migration écologique. En ville, il ne va pas trouver de travail et va parfois tomber sous le joug de gangs de passeurs qui vont lui promettre du travail s'il part au Niger, au Mali. Et donc, il va y avoir une migration économique à ce moment-là. Et puis là, du Niger, du Mali, il va finalement arriver en Libye, où il va être victime d'exactions, de violences, de tortures, et il va fuir la Libye pour essayer de trouver refuge en Europe. Et là, il va fuir des exactions, des violences politiques, et donc on va avoir une migration politique. Et sur un même itinéraire, on voit donc comment différents facteurs de migration s'entrechoquent les uns les autres, et quelque part, une partie importante des migrants économiques qui arrivent en Europe aujourd'hui sont aussi des migrants écologiques parce que l'agriculture, c'est la première source de revenus pour environ la moitié de la population en Afrique. Et pour ces gens, l'environnement et l'économie, c'est la même chose. Leur revenu dépend directement des conditions environnementales. Et donc cette distinction que nous faisons avec nos yeux de politiques européennes n'a pas lieu d'être sur le terrain.
Il nous reste un peu moins d'une minute, à l'exception de la Syrie et des États-Unis. Tous les pays de la planète ont signé l'accord de Paris sur le climat. Est-ce que les engagements pris pour contenir l'augmentation de la température à 1,5 degré d'ici la fin du siècle, en imaginant que cela fonctionne, étant optimiste, est-ce que c'est de nature à stopper les phénomènes migratoires liés au changement climatique ?
Certainement pas. D'abord, une précision pour dire que même la Syrie l'a signé en novembre dernier, donc seuls les États-Unis désormais n'ont plus pas ratifié l'accord de Paris. Et puis, bien entendu, il faut essayer de limiter l'augmentation de température maximum, mais ça ne va pas limiter ou réduire les flux migratoires. Les flux migratoires sont aujourd'hui déterminés par des variables structurelles qui tiennent avant tout aux inégalités. Et donc, bien entendu, si nous réduisons le changement climatique, ça va réduire la contrainte à la migration, mais je pense qu'il est illusoire d'imaginer que ça va à soi seul réduire la migration dans son ensemble.